Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Une odeur de melon, la route d'Anatolie, 5 tziganes qui grattent leur instrument et chantent pour vous, un poisson scorpion, des insectes en guerre, les brumes de l'île du whisky, jusqu'au point de non-retour. Pas de doute, vous êtes sur la route et en bonne compagnie pour cette dernière émission d'une semaine d'exploration sur France Culture. C'est avec Nicolas Bouvier que nous allons cheminer.
Je suis parti avec le propre nagra de Koudelski. Koudelski fabriquait artisanalement des nagras chez lui, et ça donnait de très très bons résultats, parce que ces bandes ont 50 ans pratiquement. J'ai découvert cette formidable musique balkanique, mais je dirais surtout serbe. Je pense que de tous les Balkans, c'est vraiment une musique qui m'a complètement tétanisé. On s'est juré de suivre cette piste musicale. En tout cas, jusqu'en Inde, ça a été un des motifs puissants qui m'a fait toujours revenir dans ces territoires à Cigogne, à Tzigane, où la musique fait vraiment partie du quotidien, ce qui n'est malheureusement pas du tout le rôle qu'elle a chez nous. Et je me suis rendu compte que la musique folklorique était une véritable caverne d'Ali Baba dans laquelle je pourrais passer la moitié de mon existence, parce que pour moi, une vie sans musique, ça n'aurait pas grand sens.
Bonjour Nadine Laporte.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes maître de conférences en littérature à l'université de Pau et du pays de la Dour. On vous doit aux éditions Le Passeur, Nicolas Bouvier, passeur pour notre temps. Alors est-ce que Nicolas Bouvier est vraiment parti sur les routes seulement pour la musique?
Non. Il est parti. Alors d'abord, il dit qu'il est parti sans motif, mais il dit que son voyage se passe de motif. En fait, il est parti, dit-il, pour échapper à son milieu un petit peu. Il écrit ça dans un texte qui s'appelle La guerre à 8 ans, une petite autobiographie dans laquelle il explique que il a rêvé sur des textes de voyage et surtout que sa place à Genève était prête. Il avait fait des études de lettres, de droit. Le chemin était tout tracé vers l'université, le professorat éventuellement à l'université. Et je pense qu'il a fui tout ça. Il a fui en même temps une famille très bourgeoise, très cultivée, mais un peu enfermante. Et son idée était de rencontrer le monde. Donc plus que la musique, enfin autant que la musique peut-être, c'était rencontrer le monde. Après, sur le plan tout à fait événementiel, circonstanciel, il avait dit qu'il allait chercher, pour faire une thèse, il allait chercher des documents à Pondichéry. Et il se trouve que, en fait, les documents de Pondichéry, comme c'était après la partition de l'Inde, quand il est arrivé en Inde en 54-55, en fait, les documents avaient été rapatriés en Angleterre, donc il n'y avait plus aucun document à Pondichéry. Et donc voilà, en fait, je crois qu'il est parti à la fois pour quitter sa... Je pense quelque chose qui l'étouffait, vraiment. Et puis, pour s'alléger, disait-il, rencontrer le monde et s'alléger, se peut-être trouver, s'explorer soi-même.
Alors, il faut présenter aussi Nicolas Bouvier, Nadine Laporte, en disant qu'il est né en 1929 à Genève. Il est décédé en 1998. On lui doit des textes magnifiques de voyage, l'usage du monde, le plus connu, mais aussi chronique japonaise, le poisson scorpion. On parlera de ces textes tout au long de cette émission. Est-ce qu'on peut dire que c'est avec Nicolas Bouvier que naît ce qu'on appelle la littérature de voyage, alors qu'on connaissait jusque-là plutôt le récit de voyage, qui était des comptes rendus, des témoignages sur le terrain? Est-ce que c'est avec lui que cette littérature de voyage naît?
Ça dépend ce qu'on appelle littérature de voyage. Avant lui, il y a quand même eu des gens comme Victor Ségalen qui ont mis le récit de voyage, en ne parlant que du XXe siècle, qui ont mis le récit de voyage vraiment au rang de recherche sur la langue. Ségalen était vraiment celui qui a mis en place cette idée et qui en a transformé le récit de voyage en disant que c'était la littérature de voyage où le voyage lui-même était une confrontation au divers, hein, que c'était la rencontre du divers, du différent et non pas du même. Donc je dirais pas que Bouvier a mis en place, a fait naître la littérature de voyage. En revanche, ce qu'il a fait naître, c'est une littérature du voyage qui nous concerne directement, qui n'est pas une littérature de l'élitisme comme la littérature de Ségalène, hein, qui est vraiment ou même de Gide, enfin qui est un témoignage, mais c'est-à-dire des textes très très classiques. Que réservé à une forme d'élite. Bouvier place vraiment la littérature de voyage dans l'âme des gens. Enfin, il y a une critique qui s'appelle Anne-Marie Jaton qui dit que après avoir lu Nicolas Bouvier, on n'a pas seulement l'impression d'avoir traversé le monde, on a aussi l'impression d'avoir traversé l'âme d'un homme. Et je crois que Bouvier a fait ça en fait. Il a mis le récit de voyage non seulement dans la littérature, mais dans une littérature humaine, très très humaine, très très proche. Et en même temps extrêmement belle. Il a mis la littérature de voyage comme poésie au service de l'homme, je dirais, enfin tout proche de l'humanité, de l'humain.
Voilà. C'était autant un explorateur du monde que de l'âme humaine.
Exactement. Voilà, c'était vraiment quelqu'un. D'ailleurs, L'usage du monde, c'est un titre qui vient de Montaigne. Donc, c'était quelqu'un qui connaissait bien Montaigne. Dans Le Poisson-Scorpion, il dit qu'il commence par copier Montaigne avant de commencer à écrire, tellement il a peur d'écrire. Enfin, et c'est compliqué pour lui. Et oui, je crois que c'était ce don qu'il avait, ce talent, et en même temps cette obstination à ne pas se contenter de ce que l'on connaissait sur l'âme humaine ou de ce que l'on connaissait ou de ce qu'il connaissait sur lui-même. En même temps, cette âme humaine, il voulait la débarrasser de tout ce qui l'alourdissait en Occident. Ça, c'est un cadeau de l'Asie, mais en même temps, il a voulu le trouver, ce cadeau. Donc, essayer de vraiment d'aller vers la légèreté, voilà, dans cette âme humaine.
Songez à des régions comme le Banat, la Caspienne, le Cachemire. Aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres. Jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va, pour de bon. Un voyage se fasse de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Au dos de l'enveloppe, il était encore écrit « Mon accordéon, mon accordéon, mon accordéon ». Bon début. Pour moi aussi. J'étais dans un café de la banlieue de Zagreb, pas pressé, un vin blanc siphon devant moi. Je regardais tomber le soir, se vider une usine, passer un enterrement, pieds nus, fichus noirs et croix de laiton. Deux jets se querellaient dans le feuillage d'un tilleul. Couvert de poussière, un piment à demi rongé dans la main droite, j'écoutais au fond de moi la journée s'effondrer joyeusement comme une falaise. Je m'étirais, enfouissant l'air par litres. Je pensais aux 9 vies proverbiales du chat. J'avais bien l'impression d'entrer dans la deuxième.
Voilà embarqué Nadine Laporte. Ce sont les premières lignes de L'usage du monde de Nicolas Bouvier, interprété par Georges Clès. Le voyage se passe de motifs. C'est une des grandes phrases de Nicolas Bouvier. C'est peut-être là qu'il met le doigt sur un des aspects de la condition humaine. C'est aussi cet ineffable, cet impossible à dire qu'il rencontre aussi sur le voyage. On ne peut pas tout dire. Ce qu'on essaye de le dire, on va essayer de le dire par touches très concrètes, par impression, par instantané, mais ce grand mystère de la condition humaine nous échappe. Il me semble que c'est ça, peut-être l'écriture de Nicolas Bouvier, entre mystère de la condition humaine, ineffable, et en même temps impression très précise et très concrète.
Oui. Chez lui, il y a des choses qui sont très contradictoires et qu'il va essayer de rassembler. La première chose qu'il dit, que la différence entre le vivre et l'écrire, enfin, il dit le vivre et l'écrire ne sont pas séparés d'un cheveu. Donc, il y a une quête de la joie de l'instant, enfin, de la spontanéité de l'instant, plutôt que de la densité de l'instant. Et puis, une fois que cette densité a été vécue, autant qu'il le peut, il y a ce qu'il appelle une décantation, c'est-à-dire après il faut redonner vie à cette densité. Et il a un mal fou. Alors à la fin de L'usage du monde, il dit qu'il a un mal fou à écrire. Et si je peux juste lire quelques petites pages, enfin quelques lignes de ce dernier moment, c'est le moment où il essaye donc d'écrire. Ça s'appelle Écrit 6 ans plus tard, voilà, pour retrouver le fil. Et il dit très précisément « Pourquoi s'obstiner à parler de ce voyage? Quel rapport avec ma vie présente? Aucun, et je n'ai plus de présent. Les pages s'amoncellent, j'écorne un peu d'argent qu'on m'a donné. Je suis presque à mort pour ma femme qui est bien bonne de n'avoir pas encore mis la clé sous la porte. Je passe de la rêverie stérile à la panique, ne renonçant pas, n'en pouvant plus et refusant de rien entreprendre d'autre par peur de compromettre ce récit fantôme qui me dévore sans engraisser et dont certains me demandent parfois des nouvelles avec une impatience où commence à percer la dérision. » Et il précise « Pourquoi ajouter des mots qui ont traîné partout à ces choses fraîches qui s'en passaient si bien, et comme ces boutiquiers, ce désir de tirer parti de tout, de ne rien laisser perdre. Et malgré qu'on le sache, cette peine qu'on prend, ce travail de persuasion, cette lutte contre le refroidissement considérable et si insistant de la vie. » Donc en fait là, les instants qu'il a pu vivre, ils se refroidissent très très vite, ce qu'il dit, le refroidissement considérable et si insistant de la vie, ils se refroidissent très vite, on a tous cette expérience-là, je crois, quand on veut témoigner de moments très forts, et son travail à lui va être, dit-il, de faire la poste entre les mots et les choses, c'est son expression, faire la poste, travailler comme un cordonnier, et explorer, il le dit aussi dans L'usage du monde, explorer cette insuffisance d'âme qui est paradoxalement notre moteur le plus sûr, là je le cite. Donc comment on vit des choses extraordinaires, le monde nous offre des choses extraordinaires, des moments fabuleux, et comment nous sommes trop petits pour ces choses-là, en fait, nous savons les vivre pendant un instant, mais nous ne savons pas les garder, et il s'agit ensuite pour l'écrivain de voir à quel point l'âme de l'homme est fragile, l'âme de l'homme est insuffisante, mais à quel point justement c'est cette insuffisance, cette fragilité qui force à essayer de trouver les mots justes pour essayer de rattraper un tout petit peu cet instant.
Mais en même temps, dans le texte que vous venez de lire, Nadine Laporte, la question se pose, pourquoi écrire finalement?
Oui.
Pourquoi vouloir laisser une trace, d'autant que il part en 1953 pour un voyage de 3 ans qui commence en Suisse, qui dans L'usage du monde commence par Belgrade, se finit dans L'usage du monde par le tout début de l'Inde, et puis après il ira jusqu'au Japon en 56. Donc quand il écrit ça 6 ans plus tard, c'est à la fin des années 50. Donc à la fin des années 50, il essaye encore de se souvenir et de retranscrire des impressions passées. Pourquoi? Pourquoi finalement écrire? Est-ce qu'il a trouvé la raison, Nicolas Bouvier?
Je pense qu'il avait l'impression d'avoir vécu quelque chose, non pas d'exceptionnel, mais de fragile. Voilà. Et il me semble que pour lui, cette fragilité, il le dit très bien dans son dernier poème, de recueil de poèmes, il dit que la fragilité, c'est ce qui est le plus important finalement dans le monde, dans l'homme. Et je pense qu'il voulait rendre hommage à cette fragilité, à cette légèreté qui nous est généralement refusée ou dont on ne veut pas prendre conscience, alors que c'est l'un des éléments les plus importants du monde. Et il trouvait cette fragilité, cette légèreté dans ce qu'il appelait aussi la polyphonie. du monde. Et il y a la première page du Poisson Scorpion en particulier dit que même Saint Jean, après son séjour à Patmos, aurait dû jouer un petit quelque chose s'il avait entendu la polyphonie du monde, la vraie polyphonie du monde. Donc je pense que pour lui, le voyage, c'était se dépouiller pour entendre, pour devenir tellement fragile, tellement transparent, disait-il, devenir un écho du monde, pour pouvoir recevoir cette polyphonie du monde et ensuite la restituer. C'est un acte de générosité, la restituer, voilà, restituer cette polyphonie au plus juste, au plus simple et au plus juste.
On l'a entendu dans le texte, dans le tout début de l'usage du monde, ces mots, ces descriptions vraiment par touche, pieds nus, fichu noir, croix de laiton, deux jets qui se querellent, un piment à demi rongé et la journée qui s'effondre joyeusement en lui. Comment peut-on restituer des années après ces impressions qui semblent si vives sans passer par l'imagination et même la reconstitution, même la fabrication de ces impressions?
Alors là, c'est le travail d'un écrivain. Alors, deux choses. La première chose, c'est que Nicolas Bouvier ne voyage pas seul, dans l'usage du monde au moins.
Il est avec Thierry Vernet.
Il est avec Thierry Vernet.
Donc c'est un grand ami, c'est un peintre, voilà. Qui est un grand ami vraiment d'enfance.
Voilà, donc c'est un peintre, il est peintre. Et donc il dit, Bouvier dit à un moment, j'avais l'impression de, d'en route et des routes, hein, dans son volume d'entretien, il dit j'avais l'impression de voyager avec Van Gogh. Donc effectivement, il y a tout un, je dirais, une perception du monde, qui est une perception picturale des couleurs, des détails. Et quand on regarde la peinture de Vernet, effectivement, c'est une peinture maigre, comme dit Bouvier. Et donc, c'est une peinture qui va à l'essentiel, vraiment. Donc, je pense que les deux amis avaient cette façon d'aller à l'essentiel, de ne pas s'attacher à l'exotisme, disons. Bouvier dit à un moment, on ne voyage pas pour se garnir d'exotisme comme un sapin de Noël. Hein. C'est pas... Donc,
c'est le contraire de l'enrichissement. C'est le contraire de l'aventure qui enrichit. C'est l'aventure qui dépouille.
Voilà, c'est le contraire de l'accumulation. Voilà. Donc il y a cette, je pense, il y a cette perception, cette volonté de la perception du monde, de percevoir l'essentiel, vraiment d'essayer d'être le plus proche des choses, comme un peintre en fait, qui est le plus proche des formes, le plus proche des couleurs. Et puis la deuxième chose, c'est que Bouvier, en fait, veut être écrivain depuis le début. C'est pas, il va dire que c'est le voyage qui a fait de lui un écrivain, mais pas du tout. En fait, depuis le début, dans la correspondance entre justement Thierry Vernet et Nicolas Bouvier, il y a la volonté d'être Bouvier. Thierry Vernet dit à un moment dans la correspondance, c'est absolument extraordinaire, ils sont très jeunes et Vernet doit avoir 18 ans ou peut-être 19 ans et Bouvier doit avoir 16-17 ans. Et Vernet lui dit « Songe au moment », moi c'est une phrase que je trouve « Songe au moment où il te suffira d'être toi-même, Bouvier, pour pouvoir être reconnu comme tu es, et où on dira de moi « Ah, c'était le peintre qui l'a accompagné dans ses voyages ». Donc c'est quand même
et c'est
fou.
Ce qui se passe.
Et c'est ce qui se passe. Donc vraiment, il y avait chez tous les deux, il y a une vraie volonté d'artiste. Et donc cette volonté d'artiste, elle fait que tout ce qui est perçu dans le monde n'est pas refabriqué par l'imagination après, mais s'imprègne en fait, s'imprime vraiment dans à la fois une langue, un imaginaire. Il y avait des photos, bien sûr, des dessins, de la musique.
Il y a des très belles photos, il faut le dire, dans les éditions, oui. Dans les œuvres aux éditions Gallimard en quarto. Oui. On voit les photos de Nicolas Bouvier. Oui. Et on voit des photos de Nicolas Bouvier qui sont incroyables aussi.
Oui,
On se demande même s'il voulait pas être photographe, tant son écriture aussi, comme je le disais, fonctionne par cliché. Je n'entends pas là un poncif ou un lieu commun, mais au contraire, vraiment par instantané.
Oui, par instantané, oui, oui. Alors, il y a ces instantanés, et puis dans ce que vous avez cité, il y a aussi ces très nombreuses énumérations. Alors ça, c'est l'écriture de Bouvier est comme ça, il y a effectivement de très grandes énumérations. Alors bon, si on regarde de façon un peu académique ce genre, la description normalement peut être utilisée pour épuiser le monde. C'est une des fonctions de la description en littérature. Hein. L'écrivain essaye d'épuiser le monde quand il y a des énumérations, des descriptions comme ça. Moi, je me suis posé la question. Et en fait, je pense que plutôt que d'épuiser le monde, il essaye de... de trouver dans cette, dans ces litanies là, dans ces listes, hein, et j'ai un collègue qui a travaillé sur les listes de façon extrêmement intéressante. Il essaye de pas tellement d'épuiser le monde, mais d'épuiser, je dirais, le tremblement du monde, c'est-à-dire de montrer par petites touches, vous savez, comme faisaient les impressionnistes,
un peu comme une mosaïque même.
Oui, un peu comme une mosaïque, mais avec un rythme en même temps, parce que c'est extrêmement rythmé comme travail, comme comme écriture. C'est une écriture qui est très très musicale, très rythmée, et qui et je pense que il y a l'idée à la fois de donner tout ce qui compose ce monde et en même temps de montrer les blancs qu'il y a entre le monde, enfin, comme vous savez, comme un rythme où il y a une répétition de, je sais pas, une percussion, il y a une répétition de quelque chose, et entre les deux, il y a du silence. Et le silence pour Bouvier était extrêmement important. Donc dans son écriture, ça existe aussi parce que ça permet de montrer tout ce qu'il ne peut pas dire parce que ça ferait trop lourd, mais qui existe quand même.
L'après-midi était avancé, le ciel clair. Nous traversions une plaine absolument vide. L'air était assez transparent pour qu'on distingue un arbre qui se dressait tout seul à une trentaine de kilomètres. Et tout d'un coup, toc, 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 tac, une grêle de légers chocs clairs et irrités qui s'amplifiaient à mesure que nous avancions. Un peu semblable au craquement d'un feu de bois sec ou à ceux du métal chauffé à blanc et qui travaille. Thierry arrêta la voiture en blêmissant. J'avais eu la même crainte que lui. Nous avions dû perdre de l'huile et les pignons du différentiel se mangeaient en chauffant. Nous nous trompions, car le bruit n'avait pas cessé. Il augmentait même, tout près sur notre gauche. On alla voir. Derrière le talus qui borde un côté de la piste, la plaine était noire de tortues qui se livraient à leurs amours d'automne en entrechoquant leurs carapaces. Les mâles employaient la leur comme un bélier pour bousculer leur compagne et la pousser vers une pierre ou une touffe d'herbe sèche à laquelle ils l'acculaient. Ils étaient un peu plus petits que les femelles. Au moment de l'accouplement, ils se dressaient complètement pour les atteindre, tendaient le cou, ouvraient une gueule rouge vif et poussaient un cri strident. Quand nous sommes partis de toutes les directions de la plaine, on voyait des tortues se hâter lentement vers ce rendez-vous. Le jour tombait, on ne s'entendait plus. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. C'est une semaine spéciale explorateur sur notre antenne et au chemin de la philosophie, en compagnie aujourd'hui de Nadine Laporte et de Nicolas Bouvier.
La dernière douane. Depuis que le silence n'est plus le père de la musique, depuis que la parole a fini d'avouer qu'elle ne nous conduit qu'au silence, les gouttières pleurent, il fait noir et il pleut. Dans l'oubli des noms et des souvenirs, il reste quelque chose à dire entre cette pluie et celle qu'on attend, entre le sarcasme et le testament, entre les trois coups de l'horloge et les deux battements du sang. Mais par où commencer? Depuis que le midi du pré refuse de dire pourquoi, nous ne comprenons la simplicité que quand le cœur se brise. Genève, avril 1983.
Quel est ce poème que vous venez de lire, Nadine Laporte, et qui suit la lecture d'un extrait de L'usage du monde que j'ai fait avec ces bruits de carapace de tortue.
Alors c'est le dernier poème en fait du recueil du seul recueil de poésie qu'a publié Nicolas Bouvier qui s'appelle Le dehors et le dedans. Donc c'est le dernier poème, La dernière douane, et il est important parce que bon, par sa place bien sûr dans le recueil, Bouvier a voulu dire quelque chose, mais il est important parce que il explique prime, je pense, toute l'exploration de la parole par Nicolas Bouvier, c'est-à-dire à quel moment il y a des mots qui doivent être mis sur des sentiments, des sensations, sur la polyphonie du monde, comme je disais. Et puis, il y a des moments où c'est la musique et il y a des moments où c'est le silence. Et en fait, pour Bouvier, je pense que l'écriture était une sorte de poésie du silence, comme ça, essayer de trouver les mots justes et en même temps laisser le silence avec ce qu'il avait à dire, accepter qu'il y avait des moments où il y avait, comme il disait, un ineffable. Bien sûr, il a exploré le monde, bien sûr, il a traversé des déserts, bien sûr, c'est quelqu'un qui a mis en place des récits de voyage qui sont extrêmement importants pour nous, dans la vision qu'on peut avoir du monde aujourd'hui, mais c'est aussi quelqu'un qui a exploré la langue du voyage, la langue dans son rapport au réel du voyage, jusqu'à la poésie, quoi, jusqu'à l'ineffable, jusqu'au silence poétique.
Il faut dire, c'est vrai, Nadine Laporte, que quand on lit Nicolas Bouvier, on a même l'impression qu'un menu devient un poème. J'ai par exemple en tête cette phrase « Compote de melon glacé, riz à la confiture, poulet grillé à la menthe, l'écaillé au concombre et au raisin sec ». Alors quand il décrit ce menu, finalement, on a l'impression d'avoir effectivement de la poésie.
Oui. C'est ça, mais je pense que c'est sa grande, son grand talent ou sa grande obstination d'écrivain, c'est comment faire avec, dans le menu c'est tout à fait sensible, comment faire avec ce qui est le plus quotidien, le plus sensuel, le plus sensoriel, quelque chose qui est de l'ordre de la poésie. Effectivement, la poésie, qu'est-ce que c'est? La poésie, en fait, c'est comment les mots peuvent dire des choses que l'on ne peut pas dire autrement, voilà, qu'on ne peut pas exprimer, comment les mots peuvent suggérer des choses qui ne peuvent pas être dites. Et là, c'est ce qui se passe, sauf que Bouvier le fait avec des choses qui sont non seulement quotidiennes, mais qui sont aussi, je dirais, presque substantielles au corps. Là, les menus, en l'occurrence...
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Essentiellement question de menus, parce que c'est un des moments incontournables d'une journée voyage.
D'une journée de voyage, et ils ont eu faim, ils ont eu froid, ils ont eu besoin à Tabriz, par exemple, quand ils ont passé l'hiver en Iran à Tabriz, qu'ils étaient bloqués par la neige, ils ont eu besoin de manger gras, comme ils disaient. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient plus le goût pour rien, à part pour le gras et le chaud. Donc, en fait, la nourriture, mais tous les voyageurs le connaissent, hein, connaissent ce problème-là. La nourriture, c'est en fait le dernier endroit où on a l'impression qu'on a une forme d'identité, c'est-à-dire que ce que l'on mange devient...
soi-même.
Nourriture, voilà, devient, nous nourrit, en fait. C'est plus seulement exotique, hein, c'est vraiment, on a besoin de se nourrir. Et là, je trouve que vraiment, dans ce que vous avez cité, Bouvier fait, à partir de deux choses toutes simples qui le nourrissent effectivement pour lui donner de la force, il fait de la poésie, quoi. C'est-à-dire, on entend, on a vraiment l'impression, souvent dans l'usage du monde, on a vraiment l'impression de manger ce riz à la confiture, enfin dans des douanes par exemple, il y a aussi le riz aux cerises en Iran.
Puis il y a beaucoup d'odeurs, c'est-à-dire qu'il y a des saveurs, il y a des odeurs, il y a des bruits. On a parlé de la musique, Bouvier parle de la musique, mais il y a aussi ce texte que j'ai lu sur ce bruit des carapaces de tortues qui s'entrechoquent, ce qui est quand même assez fabuleux comme description. On a l'impression que quand on lit Bouvier, c'est une exploration aussi des sens qui se produit. C'est-à-dire que c'est véritablement une écriture de la correspondance, des correspondances.
Oui, je pense qu'il était assez... il accepterait cette définition. Il y a des... Je pense que Baudelaire était important pour lui. Enfin, il y a un petit passage pour ceux que ça amuse dans le... Je cite toujours cette petite expression parce que j'ai mis des années avant de comprendre. Il parle des nuages parisiens avec Thierry Vernet et je me suis dit... Enfin, en Iran, je lui dis d'où sortent ces nuages parisiens. En fait, c'est Baudelaire, les nuages parisiens. C'est ces merveilleux nuages qui passent, etc. C'est l'invitation au voyage, le poème en prose. Il touche le monde par tous les sens. Les routes sont cannelle, les montagnes sont aubergines. Enfin, bon, ça, c'est vraiment... ça fait partie de sa manière de toucher le monde. Et c'est aussi le corps, c'est-à-dire qu'il veut fatiguer le corps. Il dit que le mot qu'il préfère dans la langue française, français, c'est le mot fourbu. Il veut fatiguer le corps de façon à devenir un éco-sensible à tout ce que le monde peut lui proposer. Donc effectivement, l'éco-sensible, c'est l'ouïe, c'est la vue bien sûr, mais la vue dépouillée de ses stéréotypes, de ce que l'on attend, de son exotisme, c'est le toucher, c'est le chaud, c'est le froid, c'est la maigreur, c'est la faim, c'est la soif. Donc il y a aussi une poétique du corps voyageur chez Bouvier qui est très importante. Et là, je pense que c'est lui qui a vraiment mis en place cette poétique du voyage vers les marginaux, vers quelque chose qui fatigue le corps et non pas qui est un voyage confortable. Là, c'est très important pour lui.
En termes de fatigue et en termes de dépouillement, il faut qu'on entende aussi un extrait du Poisson Scorpion où là, on atteint une fatigue non pas seulement corporelle, mais spirituelle.
Dans mon dos, la lampe avait été soufflée. Un ronflement puissant et régulier, mêlé de relents de curry, montait vers les étoiles. J'étais heureux d'être seul. J'avais besoin de me reprendre. J'étais plus dépaysé que je ne l'avais été de longtemps. Pendant 2 ans, la continuité continentale m'avait servi de fil rouge. Les paysages, les trognes, les accents, la taille des oignons et l'odeur des galettes n'avaient jamais changé sans crier gare. Ces 1000 détails qui font la façon d'un pays, égrenés le long de la route, composaient une leçon discrète, murmurée, cohérente, que je m'étais répétée 100 fois à l'envers et à l'endroit. Les verts pâles et les bruns de la carte réconciliaient le rêve et la pédagogie. Où irons-nous demain? Je m'étais attaché à cette école sans mensonge et, sans les interdits de la politique, j'aurais continué vers l'Est, par la Birmanie et le Sud chinois. Hier, j'avais quitté la géographie dépliée et le grand poumon de l'Inde. Ce soir, j'étais dans une île. Je n'avais pas l'expérience des îles qui posent et résolvent les problèmes à leur façon. Ce qu'on apporte dans une île est sujet à métamorphose. Une île est comme un doigt posé sur une bouche invisible, et l'on sait, depuis Ulysse, que le temps n'y passe pas comme ailleurs. Veillez à ne pas rester coincé ici comme une cartouche dans un canon rouillé. Embarquer la voiture jusqu'à Penang ou Singapour me coûterait une fortune. Et je ne savais pas encore de quoi ma vie serait faite ici. Nous étions en mars. J'avais passé le dernier Noël à la lanterne sourde à côté de la voiture sur la route de Shivpuri, entouré de petits singes gris et effrontés qui venaient tirer les pans de ma chemise. Je me demandais où je passerais le suivant. Le grincement du rocking chair m'empêchait de trouver le sommeil. Le curry m'avait mis le ventre en feu. Je me répétais la comptine de chante-fable. Le brochet fait des projets, j'irai voir, dit-il, le Gange et le Nil et le Yangtze-Kiang. Et juste avant de m'endormir, cet autre vers de Desnos me revint. Le château se ferme et devient prison.
Nadine Laporte, on vient d'entendre un extrait du Poisson Scorpion qui est paru en 1982, mais qui est en fait le récit, on va dire, d'un voyage intérieur, cette fois-ci, sur l'île de Ceylan en 1955, en plein milieu de son voyage à l'autre bout du monde. Nicolas Bouvier est pris, on va dire, une sorte d'effondrement total, d'anéantissement. On pourrait même parler de dépression.
Oui, il a vécu une dépression très sérieuse. Alors, il y a plusieurs choses. À Ceylan, il a, comme il le dit, effectivement, il était sur une île. Et il le dit ensuite qu'il n'était pas du tout un homme des îles. C'est un homme de la continuité territoriale.
Il ne supporte pas l'insularité, finalement.
Voilà, il a du mal.
Le côté enfermement, quand il parle de prison à la fin,
voilà,
c'est exactement ça.
Et dans l'île d'Aran, dans les îles d'Aran, ensuite, dans son récit sur l'île d'Aran, en fait, il tombe tout de suite malade en arrivant dans l'île. Donc, comme ça, il est couché, fiévreux. Et c'est une fois seulement qu'il s'est complètement dépouillé de de sa lourdeur qu'il va pouvoir goûter un peu ces îles d'Aran. Donc c'est pas quelqu'un qui est, enfin c'est quelqu'un qui a du mal avec ce genre de d'insularité. Ça, il y a un tropisme alpin hein, chez Bouvier. Il est suisse, c'est un montagnard. Si on regarde un petit peu tous les textes, on s'aperçoit que il est heureux quand il passe des cols. Enfin bon, il y a toute cette imaginaire et c'est un tropisme vraiment. Alors à Ceylan, il y a ça, il y a l'île, il y a le climat qui lui convient pas du tout. Il dit j'étais
un récit poisseux.
C'est terrible. Oui, il dit j'étais un petit lettré, un lettré merdeux baisé par les tropiques. C'est ce qu'il dit dans le hibou et la baleine, dans le film Le hibou et la baleine. Donc il se fait avoir vraiment par un climat très très humide. Hein. Il dit que le pain lui mange les gencives, enfin que tout est. Très concrètement, il y a aussi la solitude, c'est-à-dire qu'il est venu rejoindre son ami Thierry Vernet et la fiancée de Thierry Vernet qui s'appelle Floristella, qui est peintre. Et Thierry et Floristella se sont mariés à Ceylan et sont rentrés à Genève. Et donc lui, il reste tout seul, en fait. Et là, pour travailler, dit-il. Et en fait, ça se passe pas du tout comme il a prévu. Il n'arrive pas vraiment à travailler et il tombe. Il est malade, sérieusement malade, physiquement, hein, atteint de jaunisse, de malaria, enfin de tout ce qu'on veut. Et puis il n'arrive pas à remonter la pente, quoi. Donc il reste 9 mois là. Il aurait pu appeler les parents. Enfin bon, il aurait pu se sortir de là, mais bon, il le fait pas. Il va jusqu'au bout de cette aventure là. Et c'est une aventure effectivement où il aurait pu rester. Vraiment, il aurait pu y laisser au moins sa santé. Il l'a laissé en partie, je crois, et au moins sa raison, parce qu'il a vraiment cru qu'il devenait fou. Et il ne pourra écrire ce récit finalement que 25 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il va pas du tout l'écrire en rentrant à Genève. Il écrira L'usage du monde. Et le poisson scorpion demandera 25 ans avant de pouvoir être écrit. Et c'est pas du tout un récit écrit comme L'usage du monde, un récit au fil du voyage. C'est un récit écrit comme un théâtre d'ombre, c'est-à-dire avec des petits chapitres très travaillés dans lesquels il fait de la joaillerie pour rendre ce côté à la fois poisseux et magnifique, parce que en même temps il y a toutes les couleurs, tous les personnages. Mais bon, c'est pas évident.
Ce grondement inquiet qui me parvenait à travers l'averse n'était pas dans ma tête. Il monte droit dessous mon balcon. Je n'ai pas encore de pinces, mais je commence à avoir des antennes. Je sens dans mes os que la termitière dont les expéditions empruntent si souvent mes murs et mon plancher est en train de faire sauter le mauvais ciment de la cour et va mettre une forteresse plusieurs fois centenaire en péril pour lâcher son vol nuptial. Ici comme partout, les élans du cœur ne vont pas sans danger. La nuit est maintenant faite. La pluie a cessé, la terre est ameublie, on peut risquer l'opération. Les fourmis qui l'ont su avant moi préparent fébrilement une descente sur les brèches qui viennent d'être ouvertes. Elles ne sont pas seules. Dans un périmètre qui dépasse bien l'auberge, mâchoires, museaux, dards, moustaches, mandibules vibrent ou claquent de convoitise. Scolopendres, engoulevents, araignées, lézards, couleuvres, tout ce joli monde d'assassins que je commence à connaître est littéralement sur les dents. Je suis descendu voir cette hécatombe, une lanterne sourde à la main. Par les fissures du béton éclataient les termites volants montés du sol en rang serré pour leurs épousailles, les ailes collées au corps, leurs corselets neufs astiqués comme les perles noires du bazar. Puceaux et pucelles choyés des années durant dans l'obscurité, dans une sécurité absolue dont notre précaire existence n'offre aucun exemple, ignorant tout de la société de malfrats, goinfres et coupe-jarrets réunis pour les accueillir à leur premier bal, ils s'ébrouaient au bord des failles et prenaient leurs essors dans une nuée fuligineuse et bourdonnante qui brouillait les étoiles. Bref, enchantement. Alors effectivement, je viens de lire un extrait du Poisson Scorpion, Nadine Laporte, et dans cet extrait, on a l'impression que Nicolas Bouvier, livré à la solitude, trouve des interlocuteurs complètement délirants dans tous ces insectes. Il y a toute une sorte de, on pourrait dire, de bestiaire aussi dans le Poisson Scorpion. Son titre d'ailleurs est révélateur à cet égard. Nicolas Bouvier est seul, mais il semble être accompagné en dialogue, jamais seul et même peut-être parfois un peu délirant.
Oui, en fait, il change. L'intérêt de ce récit, c'est qu'il change les dimensions du monde. Et Bouvier se trouve en effet confronté à ces insectes qui sont omniprésents dans sa chambre. Hein. Donc il y a des scorpions qu'il attrape par la queue, dit-il. Il sait comment faire. Maintenant il les attrape par la queue. Il est.
Il y a des. Ça devient ses compagnons de voyage.
Ça devient ses compagnons. Alors là, ce que vous venez de lire, en fait, c'est un épisode précis. Il vient de recevoir une lettre de rupture de la jeune femme qu'il pensait retrouver en rentrant à Genève. Moi, après être parti pendant 2 ans et demi, c'était un peu long peut-être. Donc, il vient de recevoir une lettre de rupture. Et donc, il est un peu dans un état second. Et il assiste donc à à l'envol nuptial des termites, donc à tout ce bruit de chitine, comme il disait, hein, enfin, c'est-à-dire ce crissement d'insectes. Et il va voir en fait donc ce vol nuptial. Et en fait, ce que vous avez lu, c'est le début, mais après, c'est une sorte de guerre, c'est-à-dire que les termites s'envolent et puis ils sont mangés par d'autres insectes. Enfin, ils retombent, ils sont mangés par des fourmis. Il y a une sorte d'hécatombe totale. Lui regarde ça comme s'il s'agissait de la guerre de Troie, pratiquement. Voilà, des combats héroïques. Et il finit en disant mais finalement, cette guerre extraordinaire ne restera peut-être comme un jour fabuleux dans la vie des termites et dans le mien, dans ma vie à moi, je ne sais pas trop. Donc, en fait, il y a une sorte de compagnonnage un peu fantastique, un peu halluciné. Tout le Poisson-Scorpion est un texte halluciné, hein, un compagnonnage entre ces animaux.
On peut même penser qu'il est sous drogue ou
qu'il
qu'il mange quelque chose ou qu'il boit quelque chose qui complètement le décentre. C'est-à-dire que c'est assez frappant parce que dans l'usage du monde, il passe son temps sur les routes, le temps se dilate, mais dans le Poisson-Scorpion, le temps s'arrête et il est totalement aspiré par l'espace. C'est-à-dire que c'est plus un problème de temporalité, c'est un problème d'espace dans lequel il est totalement enfermé, totalement aliéné. Alors on retrouve tout son sens de l'observation. On pourrait même voir un spécialiste d'entomologie quand il décrit tous ces insectes. Mais effectivement, là, c'est l'espace qui noie, qui semble compter dans ce texte.
Oui, je pense que la difficulté à laquelle il est confronté, c'est effectivement cette immobilité, qui est une immobilité réelle. Après, quand on va effectivement au Sri Lanka, il fait tellement chaud que effectivement les gens bougent peu. Enfin, il y a quand même cette touffeur des tropiques et cette organisation un peu d'une végétation enchevêtrée. Enfin, c'est la jungle. C'est le problème, je pense, pour Bouvier. Enfin, je sais pas trop. C'est que effectivement, il est sédentaire tout à coup. La grande découverte qu'il a faite dans l'usage du monde et lors de la descente de l'Inde, c'est ce qu'il raconte dans Route et déroute. C'est la vie nomade qu'il avait déjà découverte auparavant dans un voyage un peu initiatique en Laponie quand il avait 18 ans, tout seul, où il disait l'état nomade a quelque chose à m'apprendre. S'attacher, s'arracher ou s'arracher, s'attacher. C'est plutôt s'arracher, s'attacher, dit-il. Donc s'arracher d'abord, puis s'attacher. Or là, il n'a plus rien dont il peut s'arracher, puisqu'il est coincé dans son île. Il ne peut pas partir parce qu'il n'a pas assez d'argent, en fait, hein, pour prendre un bateau. Et tout l'attache, en fait. Tout est en train de l'attacher. Et du coup, il se délite à force d'être coincé. Donc effectivement, le temps s'arrête, mais je pense que le voyage s'arrête aussi. C'est-à-dire qu'avec le temps qui s'arrête, il y a aussi l'immobilité forcée qui le rend, qui fait qu'il devient personne en fait, qu'il perd son identité.
Sans cet apprentissage de l'état nomade, je n'aurais peut-être rien écrit. Si je l'ai fait, c'était pour sauver de l'oubli ce nuage laineux que j'avais vu aller son ombre sur le flanc d'une montagne. Le chant ébouriffé d'un coq, un ray de soleil sur un samovar, une strophe égrenée par un derviche à l'ombre d'un camion en panne ou ce panache de fumée au-dessus d'un volcan javanais. De retour en Europe, ou lors des longs bivouacs hivernaux qui parfois ponctuent un voyage, ces images se bousculaient dans ma tête, fortes de leur fraîcheur native, et demandaient impérieusement la parole. vocabulaire, gamin, bouffeur de livres à la chandelle, clandestine, puis étudiant. J'avais eu mes éblouissements. London, Rimbaud, Melville, Michaud. Mais le véritable goût des mots m'est venu lorsqu'il a fallu les choisir. Dru, lourd dans la main, poli comme des galets pour enluminer mes modestes icônes avec l'or, le rouge, le bleu qui convenait et pour tenter de faire du spectacle de la route un de ces thésaurus paupérum à majuscules ornés d'églantines et de licornes. Incantation de l'espace, décantation du texte. Pendant des années, j'ai suivi ce mouvement pendulaire qui passe du voir au donner à voir. La parole n'est sans nom de l'exotisme qui n'est que preuve de malentendu, mais d'une géographie concrète, patiemment investie et subie.
Tous les livres importants vous aident à régler votre mort. Ça, c'est le critère majeur, c'est le A. Ensuite, il y a beaucoup de livres qui vous aident à vivre quand vous n'en avez plus le courage. Moi, j'ai été remis en piste, mais exactement comme un jouet électronique qu'on recharge en changeant la pile, par des lectures qui m'ont véritablement nourri, vitaminisé, et puis je me suis mis à tout revoir avec un œil différent. Il y a des lectures qui vous permettent aussi de relativiser des problèmes que vous avez énormément gonflé par insuffisance mentale. Donc, comme vous êtes mentalement tout petit, un problème idiot et minuscule prend toute la place, comme un gros cumulus. Et quelquefois, des lectures vous permettent de ramener ça à des proportions plus modestes. Et puis, il y a des lectures qui vous bouleversent complètement et qui vous donnent le sentiment que votre vie entière est une sorte d'imposture. Et je me souviens d'un livre, c'est l'arrangement d'Elia Kazan, après lequel j'ai pas ouvert mon courrier pendant une semaine, et j'ai hésité à mettre 3 chemises dans un sac et à disparaître. Sans du tout qu'il y ait d'enjeux sentimentaux ou conjugaux là-dedans, c'était pas du tout ça. C'est tout d'un coup un livre qui m'a dit, mais tu pourrais vivre autrement, faire autre chose, vivre ailleurs, changer.
C'était la voix de Nicolas Bouvier dans le film documentaire La baleine et le hibou, qui date de 1993, de Patricia Plattner. On y entend cette proximité avec la mort qui plane toujours, finalement, avec Nicolas Bouvier sur la route, quand il se met dans des états extrêmes, et puis notamment avec le poisson scorpion. Mais on l'entend aussi, c'est cet état-là qu'il recherche, puisque dans le texte que j'ai lu, Réflexion sur l'espace et l'écriture, qui date de 1989, finalement, le goût des mots ne vient que quand on a incanté, que quand on a peut-être supporté au maximum les épreuves du voyage.
Oui, c'était... on vient d'entendre là, sa voix, c'était un conteur extraordinaire, quelqu'un qui savait raconter des histoires et enchanter le monde avec sa voix et ses mots. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait une grande difficulté à vivre, à écrire, qui était souvent dépressif. Voilà, il y avait une grande fragilité, une très grande... cette écoute du monde, de toute façon, fragilise. Hein, et donc, il a... Je dis pas qu'il cultivait cette fragilité, mais il y a quand même la conscience que la vie arrive forcément à un terme. Enfin, la conscience de l'éphémère, peut-être. Il cite dans L'usage du monde, à la fin de L'usage du monde, le proverbe baloutche, disant que l'homme est fait pour naître, errer, mourir, pourrir. Voilà, donc naître, errer, mourir, pourrir, c'était un peu la conscience qu'il avait, qui est une conscience assez asiatique d'ailleurs, qu'il avait sans doute rencontré en Asie et qui lui avait plu. C'est vrai que les textes, même L'usage du monde, sont empreints de cette difficulté, de cette fragilité, de cette conscience que rien n'est jamais vraiment lourd, hein, que nous ne sommes pas grand-chose, que nous sommes des feuilles mortes. Et alors dans L'usage du monde, il le prend avec humour, il raconte Par exemple, ils ont un accident de camion assez étonnant, où ils sont en panne sur la route du désert. Un camion passe et les prend, donc prend la voiture sur le plateau.
Donc c'est leur Fiat Topolino.
Voilà, leur Fiat Topolino, leur petite Fiat, là, et le camion arrive et les prend sur le plateau parce qu'il est vide. Et évidemment, le camion a l'air tout neuf, mais en fait, il est complètement pourri et les freins lâchent dans une pente dans les montagnes iraniennes. Et c'est assez drôle parce que les deux personnages, donc la phrase est persuadé d'y rester, nous serrâmes la main et en fait ils se serrent la main avant l'accident. Bon, ils en ressortent de façon miraculeuse, mais il y a quand même cette conscience que ben oui, ça peut finir, c'est possible quoi.
Mais l'exploration, c'est ça, c'est aussi frôler les limites sans cesse. Et finalement, l'écriture de Bouvier, qui, comme on l'a dit, est tout autant de l'ordre de la jouissance, de goûter des plaisirs quotidiens, d'en faire des moments précieux et de bonheur, ce plaisir est aussi pris dans toutes ses extrémités frôlées. C'est-à-dire que le poisson scorpion, malgré le récit poisseux, angoissant qu'il en fait, on a l'impression qu'il jouit quelques années plus tard de pouvoir le raconter, de pouvoir dire « voilà ce que j'ai vécu, voilà dans quel état a été mon corps et a été mon âme ».
Je ne sais pas s'il a joui de raconter le poisson scorpion. Je crois que c'était extrêmement difficile. J'ai pu lire quelques pages de carnets, de journaux, au moment où il racontait le poisson scorpion. Je crois que c'était extrêmement difficile de raconter ça. C'était vraiment une expérience compliquée. En revanche, je crois que je dirais pas jouir, je dirais vibrer. Voilà, c'est-à-dire qu'il réussit à se rendre aussi sensible qu'une corde d'instrument à cordes, enfin, ou comme une page transparente, une feuille transparente, une feuille d'arbre qui vibre. Et je crois que c'était ça qu'il cherchait. Alors plus que ses limites, c'est pas tellement rechercher les limites autant au sens où on l'entend aujourd'hui.
Mais c'est pas un état. Effectivement, il faudrait pas dire chercher les limites, extrêmes limites, comme si on disait qu'il se mettait en danger et qu'il s'auto-détruisait tout le temps.
C'est pas ça, non, je crois que c'est plutôt explorer ce qui se passe quand on est prêt à devenir plus rien, voilà, quand on pourrait ne devenir plus rien. Et par exemple, à Ceylan, il rase, il dit à un moment qu'il se regarde dans le miroir, il rase sa barbe qu'il a depuis l'Iran et il n'y a plus personne dessous, tellement il est maigre, tellement il a changé. Donc c'est pas tant un danger imminent, c'est le fait qu'il est devenu effectivement plus personne. Et il dit qu'il comprend très bien Ulysse qui dit au milieu du voyage, quand on lui demande qui il est, quand le cyclope lui demande qui il est, qu'il répond personne. Effectivement, et c'est ne devenir plus personne, devenir n'être plus qu'un simple écho. Donc c'est pas le danger, c'est enlever ses propres limites à soi pour pouvoir justement recevoir tous les échos du monde, c'est ça. Et l'écriture, c'est rendre ces échos du monde.
Dans l'archive qu'on a entendu, Nicolas Bouvier parle d'Elia Kazan en disant que ce livre a complètement changé sa vie, ou du moins a bouleversé sa vie pendant plusieurs temps. Il parle aussi dans les œuvres qu'on trouve chez Gallimard d'Ella Maillard et de sa philosophie du voyage qui consiste à vivre sans gouverner. Sans gouverner le voyage, finalement, se laisser porter par les événements. Est-ce que c'est ça qu'on peut aussi entendre par n'être personne? C'est finalement ne plus avoir la main, ne plus dominer, mais se laisser complètement porter par les circonstances, par la fatigue, par les pannes, et voir jusqu'où on peut tenir.
Oui, je pense qu'il y a cette idée-là. Effectivement, ne pas maîtriser forcément les choses, laisser les choses advenir, être disponible. Après, ça, c'est ce qu'il y a dans les textes. Dans les voyages eux-mêmes, quand on lit la correspondance ou quand on regarde un petit peu, il y avait quand même des cartes, il y avait des calculs, il y avait normalement, effectivement, ils devaient aller jusqu'en Chine, ils n'ont pas pu y aller parce que c'était la révolution chinoise en particulier. Donc il y a quand même, c'était quand même préparé. En Inde, ils avaient des noms chez qui ils devaient, enfin ils pouvaient
séjourner ou être guidés.
Séjourner, être guidés. Donc c'était pas non plus un voyage complètement improvisé. Voilà, c'est pas du tout improvisé. C'était quand même très préparé. L'idée, je pense, était une idée. L'idée est celle d'une disponibilité. Voilà, d'être aux aguets sur le qui-vive et disponible à ce qui peut arriver. Mais pas non plus se mettre en danger, forcément, quoi.
Mais c'est très paradoxal finalement de vouloir partir voir le monde, découvrir le monde, se rendre complètement disponible, mais vouloir aussi en tirer quelque chose, c'est-à-dire quelque chose de soi qui ne consiste en rien, qui est n'être personne, comme vous disiez Nadine Laporte. C'est-à-dire partir en voyage à la fois sans motif et puis en rapporter quand même des pages magnifiques, et puis vouloir partir pour soi, mais pour n'être rien.
Oui, mais c'est paradoxal, mais je crois que c'est le paradoxe auquel se confronte Bouvier. C'est-à-dire qu'il a pas du tout, quand il part, il pense pas qu'il va revenir en étant personne. C'est pas tout à fait l'idée qu'il en a. Le texte de L'usage du monde est quand même écrit après le retour. Hein. Donc il y a eu 3 ans de voyage avant qu'il mette vraiment ce travail en forme. Et puis il y a eu 3-4 ans de travail vraiment sur le manuscrit de L'usage du monde qui a été écrit pendant de longues années. Ça a été très long à écrire. Mais l'écriture, c'est aussi un paradoxe. C'est-à-dire, s'il n'y a pas, si on n'est pas confronté, si l'écrivain n'est pas confronté à une difficulté, à un paradoxe, à une contradiction, à ce moment-là,
pourquoi écrire ?
C'est un témoignage. Voilà, c'est pas une écriture littéraire. L'idée, c'est justement d'essayer de creuser vers ce qui n'est pas évident. Et je crois que cette manière de d'écrire un voyage en étant personne, moi, ça me semble un paradoxe même assez fort, mais en même temps, c'est le paradoxe auquel est confronté l'homme en général. Comment vivre en n'étant pas grand-chose.
Nadine Laporte, je vous propose que l'on se quitte avec ce très beau poème de Nicolas Bouvier, Le point de non-retour, que l'on trouve dans le recueil Le dehors et le dedans.
C'était hier, plage noire de la Caspienne. Sur des racines blanchies rejetées par la mer, sur de menus éclats de bambou, nous faisions cuire un tout petit poisson. Sa chair rose prenait une couleur de fumée. Douce pluie d'automne, cœur au chaud sous la laine. Au nord, un fabuleux champignon d'orage montait sur la Crimée et s'étendait jusqu'à la Chine. Ce midi-là, la vie était si égarante et bonne que tu lui as dit, ou plutôt murmuré, « Va-t'en le perdre où tu voudras. » Les vagues ont répondu « Tu n'en reviendrais pas. »
Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire.
Merci beaucoup Nadine Laporte de nous avoir fait découvrir le monde de Nicolas Bouvier. Je dois dire que vos étudiants ont de la chance de vous avoir et d'avoir L'usage du monde de Nicolas Bouvier au programme. Je rappelle Nadine Laporte que vous êtes l'auteur de Nicolas Bouvier, Passeur pour notre temps. C'est aux éditions justement Le Passeur. Vous êtes aussi l'auteur des Livres des Merveilles et Cuir des Langages. C'est aux éditions Presse Universitaire de
Rouen et du Havre. Voilà, mais c'est pour le programme de l'agrégation.
Bon, bah pour les étudiants qui passent l'agrégation. Et puis, je te rappelle aussi que les œuvres de Nicolas Bouvier sont disponibles chez Gallimard, notamment dans une très belle édition, donc dans la collection Quarto. Et puis, je dis aussi que vient de paraître la correspondance entre Nicolas Bouvier et Thierry Verny, Le Courrier, La Courroie, Ta Bonne Lettre. C'est aux éditions Zoé. « Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Adèle Van Red, bien sûr, David Pargamin, Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, Louis Servé, Olivier Bétard à la réalisation, Georges Kless à la lecture des textes et Jean-Frédéric à la prise de son aujourd'hui. Rendez-vous demain pour l'actualité philosophique des chemins, actualité qui ne connaît pas les vacances. Et demain, ce sera le philosophe Étienne Bimbenet pour son livre Le complexe des trois singes, essai sur l'animalité humaine paru au Seuil. Mais d'ici là, pour écouter cette émission et toutes celles d'ailleurs depuis mardi sur les pensées en mouvement, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez les écouter en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster et y trouver toutes les informations bibliographiques et musicales. Et puis bien sûr, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter des Chemins de la Philo pour retrouver toutes nos émissions. Vous écoutez France Culture, à vous la suite des aventures de cette semaine spéciale explorateur sur notre antenne. À midi, vous avez rendez-vous avec Raphaël Bourgois pour la Grande Table. Mais maintenant, à 11h, c'est Culture Monde par Tiffaine de Roquigny.